Marceau le midi.
11h35 minutes. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là. Vous avez des choses à nous dire. Il se passe quoi que ce soit sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. Au 418-971-1021. 418-971-1021. C'est par texto.
Faites attention aux araignées. Et il paraît que ça tombe du plafond dans les habitacles de voitures ces jours-ci.
Bon, faut pas trop être traumatisé, Pascal. La température pour certains est adéquate à l'extérieur. Pour d'autres, il fait un peu trop froid, mais ça va se réchauffer pour ce qui est des prochaines heures. Actuellement, sur Québec, c'est autour de 17 degrés. Maximum de 21 pour aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, c'est quelques nuages avec un minimum de 10 degrés. Ça va bien dormir. Demain, mardi, ce sera nuageux avec un max de 19. Mercredi, le retour du soleil. Alternance de soleil et nuages avec un maximum de 21. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 25. Et vendredi, hey, je regarde, il n'y a pas de pluie de prévu jusqu'à vendredi, fait que c'est une bonne nouvelle. Vendredi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 24 degrés. Donc, voilà le topo pour ce qui est des prochaines heures. Notre invité est en ligne?
Oui.
Parfait. Le Conseil canadien des relations industrielles, qu'on appelle le CCRI, a ordonné aux agents de bord d'Air Canada de reprendre le travail d'ici midi aujourd'hui. Eux ont déclaré que la grève était illégale, donc les agents étaient malgré tout de retour sur les piquettes de grève ce matin. On ne sait pas ce qui va se passer pour les prochaines heures. Et selon ce qu'on peut comprendre de l'ordonnance qui a été émise par le CCRI, le syndicat doit mettre fin à cette grève illégale et demander à ses membres de reprendre le travail immédiatement. Le conseil qui ordonne aussi aux agents de bord de cesser toute activité de grève illégale et de retourner au travail. Le syndicat est également tenu de diffuser un avis écrit mettant enfin à la grève avant midi. Qu'en court le syndicat, qu'en court Air Canada dans ce dossier-là? On en parle avec Maître Marc-André Gros, qui est spécialiste en droit du travail chez BCF Avocats d'affaires. Monsieur Gros, merci d'être là, Maître Gros.
Oui, bonjour, Monsieur Marceau.
C'est-tu la première fois que vous voyez quelque chose comme ça dans votre domaine, que des employés qui sont en grève désirent continuer d'être en grève alors que les instances décident autre chose pour eux? Et là, eux décident d'aller à l'encontre de l'ordonnance, ce qui est une ordonnance du tribunal, de ce qu'on comprend là. C'est assez particulier comme dossier.
Effectivement, c'est particulier, M. Marceau. En fait, dans ma pratique, c'est la première fois que je suis confronté à une situation comme celle-là. En fait, une ordonnance émise par un tribunal doit être suivie et le fait, évidemment, bon, de défier l'ordonnance peut entraîner des conséquences non seulement pour le syndicat en cause, mais pour les salariés. Alors voilà, c'est quand même une situation qui est rarissime.
Jusque où ça peut aller? Parce que, visiblement, si le syndicat décide de pas respecter l'ordonnance, c'est parce que j'imagine que les amendes sont pas très élevées ou par le passé, on n'a pas nécessairement fait respecter les menaces du tribunal?
Bien, en fait, bon, il y a des dispositions pénales qui existent là, dans le Code canadien du travail là, qui font en sorte que, par exemple, le syndicat pourrait faire l'objet de poursuites. L'employeur pourrait également demander à ce que la décision du CCRI soit déposée au greffe de la Cour supérieure, de la Cour fédérale, dis-je, ou de la Cour supérieure d'une province. Et là, à ce moment-là, ben, c'est les différentes dispositions en matière d'outrage au tribunal qui entrent en ligne de compte. Et évidemment, une personne qui est déclarée coupable d'outrage au tribunal encourt différentes peines. Généralement, ce sont des amendes qui vont être prononcées. Mais évidemment, le fait de ne pas respecter une ordonnance, ça entraîne des conséquences qui peuvent être très sérieuses pour les gens qui y contreviennent.
Puis, est-ce qu'on voit ça juste dans les services essentiels d'habitude? Parce que, visiblement, bon, Air Canada, c'est une entreprise qui est privée, mais c'est tellement légiféré l'aviation au Canada que je me dis, à un moment donné, le transport, ça devrait être considéré comme un service essentiel. La preuve, c'est qu'il y a énormément de Canadiens et de gens qui viennent de l'extérieur, qui voyagent avec Air Canada, qui sont dans le trouble actuellement. Pourquoi c'est pas considéré comme essentiel? Pourquoi on leur donne le droit de grève à ces individus-là?
En fait, la réponse, c'est que pour être qualifié d'un service essentiel au niveau fédéral, il faut que je sois confronté à un risque imminent et grave pour la santé ou la sécurité du public. Donc, le corridor, il est quand même assez étroit pour obtenir ce genre de reconnaissance-là pour être un service essentiel dans l'état actuel là, des dispositions du Code canadien du travail. Maintenant, il y a certains secteurs sont évidemment déterminants pour l'économie canadienne, mais également pour le public. Et ce qu'on voit, c'est que la ministre, les ministres du Travail dans la dernière année ont mis fin à des conflits dans des secteurs névralgiques. Donc, les ports, on a vu la fin du conflit de travail au port de Montréal, au port de Vancouver, également au port de Québec. Il y a également eu les conflits au CN et au CPKC. Et là, maintenant, le gouvernement va de l'avant dans le secteur aérien. Alors, ce n'est pas, le corridor, comme je dis, il est étroit pour être déclaré comme un service essentiel au niveau fédéral, mais le gouvernement a d'autres outils à sa disposition et il l'exerce ici.
Peu importe, les raisons de la grève, les revendications de grévistes, Air Canada, il y a un sondage qui est sorti la semaine passée, énormément de gens étaient derrière eux pour ce qu'ils réclamaient. Par contre, en fin de semaine, ça s'est alourdi un petit peu le ton parce que il y en a des gens qui payaient un fort prix pour revenir ou aller travailler, il n'y avait pas beaucoup de dispositions. Chose étant, ça, on le comprend, donc ce serait difficile des fois de pas laisser ces grévistes-là avoir leurs revendications quand ça fait beaucoup de sens. Mais service essentiel, si même si c'était trois en ce moment, il y a je pense à Air Inuit, je pense à des compagnies aériennes qui ramènent des gens pour des services de santé un peu partout dans la province, des gens qui vont aller travailler aussi, puis que c'est une vocation extrêmement importante pour laquelle ils doivent prendre l'avion, mais justement que ça pourrait miner la santé de certaines personnes ou pour aller prodiguer des soins. Cette possibilité-là de lutter pour que ça devienne un service essentiel avec ces exemples-là, c'est pas assez fort.
L'exemple que vous donnez, par exemple, avec Air Inuit. Donc, il appartient à un employeur ou à un syndicat en cours de négociation. Il y a des mécanismes qui sont prévus dans le Code canadien du travail où on peut dire, nous, on considère qu'on offre un service essentiel pour prévenir des risques imminents et graves à la santé et à la sécurité du public. Vous donnez l'exemple de transporter des travailleurs de la santé. Est-ce qu'une entreprise comme celle-là ne pourrait pas s'adresser au Conseil canadien des relations industrielles puis se faire déclarer comme un service essentiel? C'est possible, effectivement.
C'est au compte-gouttes, c'est du cas par cas.
Oui, tout à fait, c'est du cas par cas. Maintenant, les autorités fédérales ont été grandement sollicitées dans le conflit du port de Vancouver, pas celui qu'on vient de passer l'an dernier, mais l'année d'avant. Et il y a des recommandations qui ont été faites par un enquêteur spécial qui avait été appointé par le gouvernement fédéral, et il n'est pas exclu que les dispositions qui entourent les services essentiels au niveau fédéral puissent être révisées ou réactualisées dans les années à venir.
L'an passé, c'est pas à pareille date, là, mais l'an passé, il y avait la grève des pilotes chez Air Canada. Là, cette année, c'est les agents de bord. Et l'an prochain, ce que je jasais avec Maître Marc Bellemare ce matin, c'est que possiblement que ce serait les mécanos d'Air Canada qui pourraient déclencher un conflit. On ne se le souhaitera pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que de grandes entreprises comme ça attendent des mois et des mois avant de s'entendre avec les syndicats? Puis ça fait en sorte qu'on est dans une non-résolution de conflit et ça cause des problématiques à la grandeur du Canada et ailleurs dans le monde aussi. On n'a pas quelque chose en place au Canada qui demande aux grosses entreprises comme ça, publiques, privées, de négocier de bonne foi pour en arriver à avoir une solution avant que le conflit ou avant que la convention collective soit dépassée. Là, on mettrait le gouvernement du Québec dans le trouble parce qu'ils sont pas mal souvent en retard sur les conventions collectives. Mais pourquoi on regarde pas ça comme possibilité? Obliger les employeurs à s'entendre avec leurs employés avant la fin de la convention collective?
Je vous dirais, M. Marceau, la très, très grande majorité des négociations collectives se règlent effectivement de façon tout à fait cordiale. Et, évidemment, les grands conflits comme ceux qu'on voit chez Air Canada occupent toute l'attention, c'est normal, mais la très grande majorité des conflits se règlent, la très grande partie des négociations ne vire pas en conflit de travail. Donc, il y a des mécanismes qui existent déjà où plusieurs mois à l'avance, les parties vont devoir se donner des avis de négociation collective, vont devoir se rencontrer, elles ont l'obligation de négocier de bonne foi. Dans la mesure où il y a toujours des différends, ils vont devoir faire intervenir, par exemple, un conciliateur du ministère du Travail. Donc, il y a déjà beaucoup d'outils qui existent, mais dans certains dossiers, les revendications ou en fait de chacune des parties sont tellement éloignées que ça devient difficile voire impossible de s'entendre. Et bon, l'exemple d'Air Canada en est un. Et là, ben chaque partie va vouloir faire en sorte de mettre de la pression économiquement les uns sur les autres. Alors, dans le cas qui nous concerne, le syndicat d'Air Canada a voulu faire de la pression sur l'employeur en déclenchant la grève. Air Canada a répliqué avec un avis de lockout. Donc, il y a des situations où c'est tellement gros, c'est tellement espacé ou éloigné les revendications de chacune des parties que c'est impossible de s'entendre. Et il y a des mécanismes qui existent, comme celui que la ministre a mis en œuvre.
Sans vouloir mettre de l'opinion personnellement dans ce dossier-là, j'aimerais ça vous demander, Maître Marc-André Groulx, quelle est votre opinion par rapport aux entreprises qui, parce que vous êtes spécialiste en droit du travail chez BCF Avocat d'affaires, donc vous voyez ça tous les jours dans votre cabinet, mais quelle est la proportion des entreprises qui obligent des employés à être sur place, à faire du travail pour l'entreprise sans être rémunérés? J'ai l'impression qu'actuellement, avec Air Canada et ses agents de bord, ça semble être un peu archaïque là, comme moyen de faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les roues de l'avion tournent ou encore on est en vol, là, les agents de bord sont payés. Mais à partir du moment s'il y a un retard de 2 heures, 3 heures pour l'avion, bien, les agents de bord doivent attendre à l'aéroport puis ils ne sont pas payés. Après ça, l'embarquement, le débarquement, les runs de sécurité à l'intérieur de l'avion, ça, c'est pas payé. Ça n'a comme pas de bon sens au niveau des conditions de travail. Il ne doit plus rester ben d'entreprises qui acceptent de donner ça comme sort à leurs employés.
En fait, moi, dans ma pratique, pour être bien honnête avec vous, M. Marceau, je ne suis pas confronté à ce genre de situation-là. Évidemment, bon, les revendications des salariés d'Air Canada sont clairement exprimées dans l'opinion publique. Il appartiendra, là, je crois, à un arbitre de différents, à l'espèce là, de trancher les revendications de tous et chacun. Moi, comme je vous dis, dans ma pratique, c'est pas... En fait, moi, je suis pas confronté à ce genre de questions-là. Je ne suis pas au courant de toutes les conventions collectives qui existent dans le marché, dans les différents, dans tous les secteurs de l'économie. Mais voilà, je comprends que les revendications sont clairement exprimées, puis un arbitre va devoir analyser le tout et rendre une décision.
Cette grève-là a été jugée illégale. On demande aux agents de bord de retourner au travail dès maintenant, et ça depuis ce matin. Sinon, on risque d'amende de 1 000 par jour pour ces agents de bord-là, puis 100 000 par jour pour le syndicat qui le représente. Est-ce que ce sera des amendes applicables s'il y en a qui décident d'être contrevenants puis de continuer la grève?
Il appartiendra à l'entité qui va prendre des poursuites de déterminer si effectivement en fait le niveau de l'amende qui va être requis. À ce stade-ci, je ne sais trop à quelle hauteur les amendes vont se chiffrer, mais évidemment, une ordonnance qui est exécutoire, on doit la respecter. Puis effectivement, les peines sont assez sévères, donc les gens sont invités là, à respecter ces ordonnances-là.
Maître Groulx, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part de vous être rendu disponible.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Bye-bye. Maître Marc-André Groulx, qui est spécialiste en droit du travail chez BCF Avocat d'affaires. Excellent avocat, soit dit en passant. Pascal, c'est 500 000 passagers qui ont vu leur vol annulé en raison de la grève des agents de bord chez Air Canada. C'est des problématiques à travers le monde pour des Canadiens et des voyageurs étrangers. C'est des entreprises d'aviation qui décident de profiter un peu du malheur des passagers d'Air Canada pour augmenter les prix. On en parlait la semaine dernière. Bon, Yann, c'est l'offre et la demande. Je comprends bien, mais quand ça te coûte 5 000 ou 10 000 piastres de plus pour faire voyager ta famille, pour retourner à la maison, je trouve que c'est... Excuse-moi l'expression, là, je voulais pas impliquer Maître Groulx tantôt dans mon vocabulaire, mais c'est chien sale en maudit quand tu dois retourner chez vous puis l'entreprise avec laquelle tu veux faire affaire vient de bonifier ou augmenter ses prix de 5 000 %. Ça a comme pas de bon sens.
L'avantage, entre parenthèses, je parlais avec Andrew Damour, cofondateur de Flight Trippers ce matin, puis ce qu'il a dit, c'est que si votre vol a été annulé, puis ça a été des billets achetés par la suite, le prix que vous avez payé, vous pouvez le réclamer à Air Canada. Ça, c'est dans vos droits. Il dit la seule chose, c'est que des fois, c'est extrêmement long.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
Ça peut prendre des années, mais ce serait dans vos droits de faire « Hey, ça vient de me coûter 15 000 $ là, revenir à la maison avec la famille. »
Ouais.
Parfait, Air Can, vous êtes en mesure, vous devez, et selon mes droits, me repayer cette somme.
Parce que les autres entreprises, puis je ne connais pas la grosseur de leur flotte et tout ça, mais auraient pu profiter de la manne de passagers qui étaient dans les problématiques pour offrir, pas à rabais, au même coût, des voyages pour retourner à la maison, tout simplement. Puis tu t'organises pour donner le meilleur service à la clientèle qui souhaite. T'imagines-tu le marketing au travers de ça? Mm. Là, on a des passagers qui paient des dizaines de milliers de dollars de plus. Ouais, mais augmenter les flottes, pour ça, je te
oui, sauf que ça se fait pas de même. Il n'y a pas de place nécessairement tout le temps dans les aéroports pour ça.
T'sais. Ben, c'est, moi, c'est pas ça que j'ai là, de la part des pilotes d'Air Canada, parce que j'ai posé la question, puis là, je dis, mais là, vous autres, vous pouvez pas voler actuellement. Est-ce que vous pouvez aller travailler ailleurs? Puis ce qu'ils m'ont mentionné, c'est que oui, techniquement, ils pourraient le faire.
Parce que ce matin, quand j'y parlais, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que l'organisation de vol, c'est très complexe, puis c'est prévu d'avance quand même. Mm-hmm. Donc, de rajouter, mettons, des flottes ou des avions, ça vient mettre les choses extrêmement compliquées.
Mais supposons que tu as 10 places dans ton avion là, qui ne sont pas prises. J'ai de la misère à voir des gens qui disent « OK, ben les autres sont dans la misère. » Fait qu'on va profiter du fait qu'ils sont dans la misère pour augmenter les prix, pour se mettre encore plus d'argent dans les poches. Je comprends, là. Je comprends qu'il y a des fois, tu dis « Ouais, mais Yann, c'est ça les affaires. » Mais en même temps, je trouve ça extrêmement cruel. Voilà, espérons que tout va rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures. Là, ils ont jusqu'à midi pour retourner travailler. On a-tu des nouvelles à savoir si le gouvernement est intervenu encore, si le syndicat des agents de bord est intervenu encore?
J'ai rien pour toi.
OK.
J'ai juste que des employés qui militent en ce moment pour voir s'ils peuvent continuer cette grève-là ou pas.
Ouais.
Mais c'est vraiment illégal maintenant. Ça a été proclamé. On veut retenter de faire en sorte que les gens puissent avoir des vols. Ça va prendre 7 à 10 jours. Alors, si on revient à la normale, si on réussit à faire tout rouler, ça va prendre quand même 7 à 8 jours pour avoir l'effet tampon sur toutes les problématiques qui ont été engrangées dans les derniers jours.
Ça, c'est des coûts. Bon, le billet va peut-être coûter plus cher. L'hôtel, la nourriture, c'est des coûts supplémentaires. Puis pour ce qui est des conditions de travail, parce que je sais que, bon, j'ai pas nécessairement parlé des conditions de travail, mais avec Maître Gros, on en a parlé, c'est des conditions de travail qui sont pas épouvantables, mais qui ont pas de sens. Puis j'écoutais en fin de semaine sur TikTok un ex-agent de bord qui mentionnait avoir changé sa carrière. Lui, il était agent de bord, puis finalement, il a transformé sa carrière en serveur de restaurant.
Okay.
Il dit, c'est à peu près la même job, sauf que j'ai pas nécessairement à m'occuper de la sécurité à l'intérieur de l'habitacle.
Pas de bagages
constants.
Puis,
je suis payé à partir du moment où je mets mon tablier jusqu'à la fin où j'enlève mon tablier, mm-hmm. Et ça l'a bonifié son salaire. Fait que, tu sais...
Dans sa ville, probablement, près de chez lui.
Agent de bord, je veux dire, t'as quand même une certaine responsabilité. Puis pour lui, c'est plus payant d'être serveur dans un restaurant où t'as des responsabilités, mais la sécurité de tes clients est pas tant là. C'est pas ta priorité à toi. Eux autres, c'est leur priorité, la sécurité. Puis ils sont beaucoup moins payés. Pascal, c'était 2 000 $. Quand tu commençais chez Air Canada, là, c'est 2 000 $ garantis par mois. 75 heures. Minimum de ce qu'on comprend par mois. Tu peux pas nécessairement payer ton loyer et bien vivre avec ça.
On a-tu la réponse si c'est pareil dans chacune des autres compagnies aériennes?
Non. Ailleurs,
on n'arrête pas de poser la question.
Je parlais avec Maître Bellemare, là, puis ailleurs, il y a plein d'autres entreprises dans le monde de l'aviation qui, à partir du moment où l'agent de bord rentre sur son lieu de travail, il est payé.
Bon.
Fait que si l'avion est en retard de 3 heures, puis là, je dis ça, je dis rien, mais mettons que la personne gagne 25 à 30 piastres de l'heure, bien, si l'avion est en retard de 3 heures, bien, il y a un 25 à 30 piastres de l'heure qui s'accumule puis qui va aller dans le compte de banque de l'agent de bord qui est en attente. Et c'est pas le cas d'Air Canada. Puis juste pour parler de la grève des pilotes l'an passé, mon chum est pilote pour Air Canada, je le salue, on l'avait eu dans Mars au soir, augmentation de 30% du salaire, là. C'est drastique là, comme augmentation. Fait que j'imagine que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va revenir à des salaires qui ont peut-être un peu plus de bon sens pour les agents de bord. Mais d'ici là, ben, les Canadiens puis les gens qui voyagent avec Air Canada sont dans le trouble. Pas pire. Sinon, y a-tu d'autres choses qui méritent ton attention, Pascal, dans l'actualité?
Bien, c'est sûr que juste avant d'entrer en onde avec notre invité, Fiasco SAAQ Click, on apprenait qu'il y a une lanceuse d'alerte qui a prévenu le gouvernement. Et là, vous dites, oh ouais, quand? 2017. Donc, en 2017, il y a quelqu'un qui a levé la main puis qui a dit, comportement inquiétant de la part du principal responsable de la transition numérique, Carl Malenfant. Je vais envoyer un genre de missive, là, et ça a été fait sous forme de révélation assez explosive à la commission Galant. Donc, on a appris ça, qu'elle avait tiré la sonnette d'alarme dès 2017. Lettre qui était intitulée « Enjeu majeur à la SAAQ ». C'était la directrice de la planification et de la performance. Elle s'appelle Pascale Saint-Hilaire et elle a énuméré plein de conflits d'intérêts apparents, plein de problèmes d'éthique. Là, Yannick, je vais te dire une affaire. Conflit d'intérêts apparents, problème d'éthique, c'est pas la première fois où on entend ça au sein de la coalition Avenir Québec. Qu'est-ce qui se passe? Et là, en plus, c'est dans le plus gros des dossiers actuels, celle de la SAAQ CLIC, Commission Galant. Donc, tout ça a été attribué au vice-président aux technologies de l'information, Carl Malenfant. C'était adressé initialement au président du Conseil du Trésor à l'époque, c'était Pierre Moreau, rappelez-vous, et à l'ex-ministre des Transports, qui était Laurent Lessard, rappelez-vous aussi. Donc, ces deux hommes-là avaient reçu une lettre. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette lettre-là? Là, ça, va falloir un petit peu plus d'informations, mais on décrit qu'il y avait beaucoup de liens entre M. Malenfant et ses conseillers. Puis là, elle dit que c'est sa garde là, à M. Malenfant, donc on peut comprendre que selon ces informations, elle, son ressenti, c'était vraiment une petite clique, là. Puis il y a une série de consultants qui provenaient de la firme R3D et d'Hydro-Québec qui étaient là-dedans, où M. Malenfant a longtemps travaillé, puis a même embauché des gens à des postes stratégiques. On ajoute que M. Carl Malenfant aurait exigé de faire ouvrir les trois soumissions du projet de la refonte de la SAAQ CLIC, et ce, avant l'échéance prévue à cette fin-là. Et ça, c'est contraire aux règles. Donc, Mme Saint-Hilaire, Pascale Saint-Hilaire, a raconté tout ça. Puis elle a dit qu'elle a dû rencontrer M. Malenfant à trois reprises pour qu'il renonce à l'ouverture des soumissions, qu'il arrête de mettre de la pression pour les faire ouvrir. Et elle a été assez stridente là-dessus pour elle. Elle croit que c'est des comportements, des positions d'influence, des propos aussi de M. Malenfant qui soulèvent d'énormes questionnements éthiques relatifs au respect de ses obligations en tant qu'administrateur d'État et divers règlements, directives en gestion contractuelle qui aurait dû avoir des meilleures pratiques en gestion au sein de la fonction publique. C'est un témoignage fondamental. Elle a été escortée hors des bureaux également, mais cette femme-là a été démise de ses fonctions et on lui a dit hey, « Excuse-moi, t'es trop intelligente, t'es trop performante », toujours selon ses propos.
Wow! OK, bien cette semaine, on va avoir plus de détails puisqu'à la commission Galant, on va avoir justement Laurent Lessard, que j'ai rencontré plusieurs fois, puis je pense qu'il va probablement réussir par sa façon de communiquer. Il va probablement réussir à s'en sortir assez facilement. Il va avoir André Fortin aussi, comme tu l'as mentionné, qui a été ministre pas très longtemps, mais ministre des Transports. François Bonnardel, qui va être là aussi. Puis la Geneviève Guilbeault, qui, d'après moi, va tenter de laver plus blanc que blanc. Là.
En tout cas, elle a dit qu'elle avait bien hâte de témoigner. Là,
oui, puis souvenez-vous, pendant les problématiques à la SAAQ, là, c'est elle-même qui gérait les communications de la SAAQ sur Twitter pour essayer d'informer les journalistes, essayer d'informer les clients. Non, mais c'est la vice-première ministre du Québec qui gérait les communications parce que personne n'était capable de le faire. C'est assez hallucinant. Est-ce que tu penses qu'un jour, dans ce dossier-là, il y a des gens qui se sont fait énormément d'argent, Pascal, dans ce dossier-là? T'as-tu l'impression qu'il y en a un ou une qui va finir avec des chaînettes aux pieds puis des menottes au poing?
On n'a pas vu ça dans le passé, ça me surprendrait pour la suite, mais j'ose espérer qu'il y aura quelque chose d'imputable.
Ah, je suis d'accord avec toi. 11h58, 418-971-1021, vous êtes sur les ondes de Boulevard 1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, ça fonctionne par texto. Marceau.